Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Dans l'octave de Noël, nous fêtons la Sainte Famille. C'est un peu un aller-retour que l'Écriture nous invite à faire, parce que, vous avez entendu, après le départ des mages, et si vous avez bien suivi le calendrier liturgique, nous allons fêter l'arrivée des mages la semaine prochaine. Alors, c'est pas très grave, ça me paraît pas d'une logique extrême, j'aurais pas fait ça comme ça, mais c'est pas très grave. Les chrétiens parlent l'Évangile couramment, alors ils peuvent aller d'avant en arrière, sans être trop perturbés. Nous nous plaçons donc après, et pourquoi l'Église a voulu placer la fête de la Sainte Famille rapidement? C'est parce que c'est essentiel que le Seigneur ait voulu venir parmi nous, et pas en descendant d'une manière surnaturelle, extraordinaire. Il descend d'une manière surnaturelle, mais il descend d'une manière ordinaire dans un homme. Voilà pourquoi nous fêtons la Sainte Famille. Je vais vous dire un mot d'abord de cette histoire mouvementée du début de sa vie, les martyrs des saints innocents, et puis dans un deuxième temps, la Sainte Famille en elle-même. Tout d'abord, le martyr des saints innocents, le Verbe fait chair, qui vient parmi nous, bouleverse ce monde, et cela a immédiatement des répercussions concrètes, réelles. On cherche à le faire mourir. Ça peut paraître étonnant qu'un roi si puissant, si Hérode, le troisième du nom, celui que connaîtra Jésus au moment de sa mort, n'est plus très puissant. Celui-ci est encore assez puissant. C'est un puissant roi en Judée. Il est étonnant qu'il soit si bouleversé de trois mages qui passent par là en lui disant qu'ils ont vu une étoile et que peut-être le sauveur d'Israël est né. C'est étonnant de penser que les puissants de ce monde puissent être bouleversé par la naissance d'un enfant, et encore plus pour ceux qui sont croyants, d'être bouleversé par la naissance du Christ, c'est-à-dire celui que tout le peuple d'Israël attendait. Ils sont bouleversés pourquoi ? Il faut nous demander, nous aussi, si nous ne sommes bouleversés ou pas. En un sens, nous devrions l'être. L'incarnation du Christ est un bouleversement du cosmique, un renversement du monde. Le Tout-Puissant se fait tout petit, se fait visible, et nous ne nous rendons pas assez compte d'ailleurs de ce bouleversement. Mais voilà, je l'espère pour nous, c'est une source de joie intense de savoir que Dieu vient, mais pour beaucoup c'est une condamnation. Et oui, c'est une condamnation pour les idées politiques de ce brave Hérode qui pense autrement, qu'il pense qu'il régnera sans Dieu. Des Hérode, nous en connaissons beaucoup, tout au long de l'histoire, nous en avons connu, et nous en connaissons encore, des princes, des rois, des empereurs, des présidents de la République, que sais-je, qui se bouleversent, qu'ils doivent gouverner pas seulement avec leur propre entendement, pas seulement avec une petite approbation du peuple ou des princes, et ensuite en faire comme ils l'entendent, non. Ils doivent gouverner selon la justice, ils doivent gouverner selon un principe qui les dépasse. Ils doivent gouverner non pas en fonction d'une organisation seulement humaine, mais en fonction de l'homme qui va vers Dieu. Et oui, tout gouvernement qui ne prend pas en compte cette dimension spirituelle de l'homme, son appel à vivre éternellement avec Dieu, manque obligatoirement quelque chose de la vocation de l'homme. Et c'est ce qu'Hérode a manqué. Et le plus étonnant, dans un deuxième temps, c'est que cela le met en colère suffisamment pour faire massacrer des enfants. Étonnante colère, nous pouvons aussi nous étonner, nous aussi, de nos jours, que la proclamation de la foi chrétienne engendre des palabres, des excitations, des colères parfois, alors finalement que nous annonçons une parfaite bonne nouvelle, Dieu venu dans le monde pour nous sauver, pour exaucer ce monde jusqu'à Dieu et le faire vivre éternellement. Et oui, la colère de ceux qui ne veulent pas vivre de ce bien est déroutante. Il me semblerait plus rationnel, plus logique que ceux qui ne croient pas que Jésus est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu venu jusqu'à nous, ceux qui ne croient pas que l'Église porte la rédemption du monde comme un message, eh bien, il serait plus rationnel qu'ils s'en fichent. Il serait beaucoup plus rationnel qu'ils n'y prêtent pas un crédit énorme et qu'ils nous laissent gentiment proclamer le Christ, que ce n'est pas très dérangeant. Mais vous savez, ce n'est pas cela qui se passe. La proclamation du Christ Et la proclamation de la vérité même est la preuve, c'est qu'elle est persécutée. La preuve, c'est que cette proclamation innocente, assez humble, eh bien, rend fou ceux qui n'en veulent pas. Comment penser qu'une simple crèche mise sur une place ou devant une mairie puisse bouleverser l'équilibre de la République, une sainte laïque, pardon, je veux dire une laïque et indivisible, eh bien, c'est incompréhensible. C'est parfaitement incompréhensible, mais en fait, c'est normal. C'est une pierre d'achoppement que la naissance de cet enfant, c'est une pierre d'achoppement que la naissance du Christ, et chacun doit se prononcer. C'est le dessein de Dieu que nous puissions, en face de nous, avoir ce salut et devoir nous y prononcer. Les chrétiens sont détestés dans toute l'histoire et à travers le monde, à la suite des juifs d'ailleurs, dont ils ont gentiment pris le pas. Et aujourd'hui encore, peut-être avez-vous vu, personne, il y a des gens qui n'oublient pas que c'est Noël et c'est au Nigeria où 11 chrétiens ont été décapités simplement en raison de leur foi et du fait qu'ils comptaient conserver le Christ dans leur cœur. Ne vous y trompez pas, ce combat est un combat eschatologique, un combat spirituel. Spirituel veut dire terrible, réel, et qui donc a des conséquences réelles dans votre vie, vous-même, dans vos familles, auprès de vos amis, dans vos métiers. Eh bien, je ne doute pas que la position de chrétien soit un poil à gratter, pour le moins, sinon un achoppement pour le monde. Ne vous en troublez pas, ne vous énervez pas, nous n'avons qu'à annoncer gentiment la venue du Christ qui nous sauve et chacun sera à même de recevoir ce message ou pas, selon la coopération qu'il veut faire avec cette vie éternelle. Voilà pour ce martyr des saints innocents, ce début du Christ complètement incroyable. C'est prophétique, évidemment, il mourra bien sûr sur la croix, non sans avoir d'abord rempli sa mission, c'est-à-dire d'annoncer la raison de sa venue et nous la faire connaître pour nous révéler le visage du Père. Eh bien, puisque nous fondés sur ces martyrs d'Israël, la Sainte Famille va se mettre en route et quitter la terre hospitalière où elle est pour aller se réfugier en Égypte. Dans la Bible, l'Égypte est toujours à la fois un refuge où le grain est abondant, à cause du Nil, évidemment, mais aussi c'est une terre d'exil, c'est une terre d'esclavage. Le Seigneur, dans son humilité, ne fait pas seulement que s'incarner, il va connaître l'exil. Et il le connaît avec cette famille, cette cellule essentielle, initiale, qu'est la famille. La famille, il nous faut le proclamer toujours et partout. Elle a deux qualités fondamentales. Elle est la cellule de base de la société et elle est la cellule de base de l'Église. Il me semble que c'est tout un. Oui, elle est la cellule de base de la société et il faut le dire de nos jours, c'est presque une tautologie, mais aujourd'hui il faut le rappeler, c'est le lieu naturel de l'apprentissage de l'amour. Et ce n'est pas parce qu'il arrive que dans les familles, cela ne se passe pas très bien, cela peut arriver, aucune aventure humaine n'est parfaite, il n'empêche que normalement, c'est là que l'on apprend les relations naturelles entre les gens, des relations d'amour, des relations de gratitude des parents envers les enfants, des relations de protection et de dilection des parents-enfants, et puis de respect pour les parents. Bref, c'est là que se forge l'intime de ce qu'il y a le meilleur dans l'homme, sa capacité à communiquer avec les autres. Ne vous laissez pas perturber et ne vous laissez pas faire à croire que la famille serait, comme elle l'est dans beaucoup de philosophies actuelles, un lieu de difficultés et de problèmes, un lieu de désocialisation de l'homme. C'est l'inverse. C'est dans la famille que l'homme devient ce qu'il est, qu'il devient le fils de ses parents, la fille de ses pères, qu'il devient un père, une mère, qu'il devient ce qu'il doit être, qu'il engendre, qu'il procrée, qu'il se réjouit de coopérer véritablement à l'établissement de l'œuvre de Dieu sur terre. Alors il n'est pas étonnant pour nous que la famille de cette cellule de base fondamentale de la société soit aussi la cellule de base de l'Église. C'est une ecclésiola, disait Jean-Paul II, une petite église en miniature, un petit lieu où déjà se vit la présence de Dieu. Qu'il y ait des enfants ou pas, cette ouverture de la famille au monde est un bienfait inestimable à partir de laquelle le Christ est appelé à régner. Oui, nous voulons qu'il règne, cet enfant tout petit dans la crèche, cet enfant dont la puissance n'est pas comparable aux puissances de ce monde, qui n'est que destruction et lamentation. La puissance de Dieu est celle de la création. Voilà pourquoi il l'a montré dans un enfant. Alors, mettons-nous comme le saint patriarche Joseph à l'écoute de Dieu. Peut-être avez-vous entendu son histoire étonnante ici, et vous pourriez vous dire, après tout, mais Joseph, bon, ben, il a entendu un ange en songe, alors c'est plus facile d'écouter la voix de Dieu quand on l'entend en direct. Eh bien, non. Non, figurez-vous, d'abord, si Joseph a entendu la voix de l'ange, c'est parce que c'est un homme droit et c'est un homme de prière. Si vous vous adonnez à la prière, si vous commettez cet acte spirituel, vous êtes en mesure d'entendre Dieu qui est pur esprit, c'est-à-dire vous vous mettez dans les meilleures conditions pour entendre la volonté de Dieu. Et si Joseph l'a entendu, certes, peut-être d'une manière plus extraordinaire que d'habitude, c'est parce qu'il est un homme extraordinairement à l'écoute de Dieu. Il est étonnant dans toutes les révélations privées au cours de l'histoire, que ce soit les apparitions de la Vierge Marie ou les locutions intérieures, bref, les phénomènes extraordinaires de la vie spirituelle, cela soit toujours à des enfants ou à des religieuses ou à des religieux reclus qui ne s'adonnent qu'à la prière. Et oui, c'est dans l'intimité du cœur que Dieu nous parle, mais ce n'est pas tout. Dieu nous a aussi donné l'intelligence pour comprendre son plan. Avez-vous remarqué, alors que l'ange dit à Joseph de retourner en Israël, en rentrant, Joseph prend peur en apprenant qu'Archélaüs, le fils de son mauvais père, était devenu roi à sa place, il décide de ne pas rentrer en Judée, mais de partir en Galilée, à Nazareth. Et oui, l'intelligence de Dieu qui nous est donnée n'est pas simplement d'une illumination soudaine, elle est d'une recherche et d'une compréhension du plan de Dieu. Mais bien, chers frères, vous avez en vous-même et dans vos familles particulièrement la grâce de connaître Dieu, certes par la prière, et aussi, dans un second temps peut-être, mais essentiel, en mettant en œuvre votre intelligence et votre réflexion. Vous êtes capax Dei, vous avez la capacité de communiquer avec Dieu, c'est incroyable. Vous avez la capacité, ça s'appelle la conscience, que Dieu a mise en vous, la capacité de découvrir le bien, le meilleur, et c'est ça, la volonté de Dieu. Croyez bien que c'est en vous, et dans l'exercice libre de votre recherche du bien, que votre conscience choisira vraiment la volonté de Dieu. Alors, vous serez comme le saint patriarche Joseph, vous serez un homme juste, une femme juste, vous saurez comment accueillir le Christ et vivre de lui. Ainsi soit-il.